offrez-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Bonjour, bonjour, mais je préfère dire bonjour avec mon accent alsacien. Wie geht's, Levi rund funktionieren? Les journées se suivent et ne se ressemblent absolument pas. C'est comme mes invités. Ils viennent tous d'un monde totalement différent. Exemple, j'ai reçu devant cette forêt de micros de Radio Judaïka un ramoneur, un arboriculteur, un inventeur, un chanteur, un animateur, un lecteur, un dresseur de fourmis, si, si, c'est vrai, tous les métiers en heure. Mais quel parleur ce André Müller, l'animateur de Fais-moi une place. Arrête, bavardeur, de raconter des salades aux auditeurs. Alors, qui est ton narrateur ce matin? Hé, nous me langsom, pissez les cotoules d'un peu de patience, chers auditeurs aux grandes oreilles. C'est un entrepreneur, confiseur, qui ressemble Jones à Gérard Jugnot. Si, si, c'est vraiment vrai. L'acteur, vous savez, l'acteur Gérard Jugnot qui a fait le Père Noël est une ordure et les bronzés. Alors, monsieur, êtes-vous Gérard Jugnot?
Oh non, je ne suis pas Gérard Jugnot. On me le dit de temps en temps que j'y ressemble, mais ce n'est pas moi.
Donc tu as des places facilement au restaurant quand tu arrives?
Ouais, peut-être.
Alors dis-moi, qui êtes-vous, mon invité surprise, Hitmori?
Alors je m'appelle Fabrice Krenker.
Ravi de te recevoir, à la radio. Comment tu gazouilles dans ton monde de ta planète sucrée? Comment ça gazouille chez toi?
Ben, ça va bien, il n'y a pas de souci.
Un homme heureux?
On a beaucoup d'activités, beaucoup d'actualités, donc... On ne peut pas demander plus.
D'accord, mais moi je suis très heureux de partager cette demi-heure et de s'asseoir sur le rebord du monde et de se raconter. Dis-moi Fabrice Krenker, tu as des racines alsaciennes bien ancrées?
Oui, je suis vraiment un Alsacien du nord au sud en fait.
De toute l'Alsace?
De toute l'Alsace.
Des hauts, des montagnes?
Ma maman elle est de la vallée de Münster, mon père est de Strasbourg.
Ah ouais?
Je suis né à Neuf-Brisach, j'ai grandi à Bischwiller.
Ouais, c'est une...
Donc j'ai fait le tour de la question.
Joli méchon, hein? C'est un beau mélange, ouais. Et tu penses toujours, tu réfléchis toujours en alsacien ou tu parles toujours le dialecte alsacien?
Je le parle, mais je le pratique très peu, en fait, parce que j'ai peu l'occasion. Hein, puisque j'ai quand même passé une grande partie de ma vie dans une vallée alsacienne, mais francophone.
La
haute vallée de la Bruche.
Ouais.
Et maintenant, j'habite à Saint-Dié, donc pareil, j'ai rarement l'occasion de le pratiquer.
Tu veux dire que tu es venu de Saint-Dié spécialement pour chez nous, pour venir?
Absolument, j'ai traversé le massif Vosgien.
Mais quelle chance que nous avons.
D'ouest en est.
2 heures de route?
Tout à fait, 2 heures de route.
Gentil de venir nous voir. Ouais. Alors, dis-moi, tu étais où jusqu'à l'école avec tout ce que tu racontes là? Tu as grandi où?
Alors, mon école, c'est Bischwiller. C'est Bischwiller. Je suis arrivé à Bischwiller à l'âge de 3 ans.
Ouais.
Mon papa était instituteur au Zonenhof.
Je connais cet endroit.
C'est comme ça qu'on est arrivé à Bischwiller.
Ouais, ouais.
Et j'ai fait toute ma scolarité à Bischwiller et les 2 bacs que j'ai ratés, je les ai fait à Bischwiller.
Alors, tu étais plutôt un rêveur ou un travailleur du CP jusqu'à la terminale?
Non, j'étais plutôt rêveur. J'avais des idées comme ça, un petit peu décalées souvent par rapport à ce que mes amis faisaient. Et donc, voilà quoi.
Moi, j'aime beaucoup les rêveurs. C'est eux, ce sont les sauveurs de l'humanité. Qu'en penses-tu? Hein, tu penses qu'il en faut des rêveurs dans la vie?
Oui, bien sûr. Il y a des rêves irréalisables et puis des rêves irréalisables qui se réalisent.
Ah ben, il faut avoir des rêves dans la vie.
Voilà.
Bah, sinon, ça n'a aucun intérêt si tu rêves pas.
Hein,
c'est
fait.
Vrai. On a tous eu des rêves quand on était jeunes.
Bien sûr.
Il y en a qui aboutissent, mais parce qu'on y va avec force, quoi. Tu vois, il faut y aller à fond, quoi. Tu vois. Alors, dis-moi, pendant tes études, tu es parti avec ton sac à dos direction l'Ardèche, et on fait quelques petits raccourcis.
Oui.
Et tu es devenu berger.
Oui, ben j'avais lu dans Reader's Digest à l'époque, c'était des magazines qui traînaient à gauche à droite, que dans la vallée du Rhône, les agriculteurs cherchaient des stagiaires. Donc, c'était les années post-68 hard, si on
baba
peut dire.
Baba cool, quoi.
Un peu baba cool.
Un peu fumeur de pétard,
et j'ai répondu à cet article et j'ai eu 2 propositions de stage en Ardèche. Donc, un exploitant m'a retenu et on est devenus très amis. Et je suis allé depuis régulièrement, pendant toutes les vacances scolaires, faire du mouton, comme on dit.
Mais tu vivais au rythme du troupeau, alors ? Comment tu...
Ouais, pas loin. Ouais. C'était un peu... Il n'y avait pas de grande distance entre le quotidien à la maison, donc chez les propriétaires, et puis le bétail, les bêtes,
et,
quoi,
et
les
animaux. Et t'avais quoi, deux moutons ? T'avais 50 moutons ?
Non, on avait 200 bêtes, 200 mères.
Ah, quand même ?
Oui.
Et avec des chiens qui...
À surveiller sans ouais. clôture électrique, il n'y avait rien
ah,
du
ouais.
tout.
Ah ouais, ouais. T'avais des ouais. chiens travailleurs ?
Non.
Même pas de chien pour garder ? Ah ouais ?
Non, le chien, c'était moi, quoi.
Donc tu courais dans tous les sens ?
On courait toute la journée.
Et tu faisais waf, 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 waf.
Voilà.
Mais dis-moi, c'est aussi un métier de sagesse et de rêverie,
mais
le métier
sûr,
de berger.
Mais bien sûr, parce que, bon, quand je dis courir toute la journée après les moutons, non, parce qu'il y avait des très, très longs moments de tranquillité où il ne se passait rien du tout, puisque les bêtes, elles pâturaient au même endroit. Donc, oui, au rêve, c'est clair.
Et le soir, tu les mettais à la bergerie ou tu dormais
Oui, on les ramenait dans un enclos comme ça, ouais, près de la bergerie, ouais, tout à fait.
Et
puis le matin, on repartait selon les pâtures.
Et tu dormais à la Belle Étoile avec tes moutons ?
Presque,
c'est vrai ?
Oui, wow. J'avais un abri, comment dire, une petite excroissance ou un petit... une chambre, en fait, quoi, qui n'avait ni porte ni fenêtre. C'était une toiture, quoi, tout simplement.
Ce sont des bons souvenirs, ça ?
Oui, bien sûr. Oui,
berger,
bien
c'est
sûr.
Vrai
oui,
que
oui,
c'est chouette.
C'était une autre vie par rapport à la ville, parce que Bichelaire est quand même une ville, finalement.
Oui, ouais, bien sûr. Et après, donc, ce métier-là, avec tes rêveries, tu avais envie de devenir instite d'école maternelle ?
Pas tout à fait, pas tout de suite, parce que j'ai quand même eu la chance d'être accepté dans une classe préparatoire pour ingénieur agricole.
Ah bon ?
Et comme par hasard, à Valence, donc juste à côté de l'Ardèche, je me retrouvais de nouveau dans ce secteur-là. Et bon, j'ai raté le concours, c'est pour être clair. Et donc, c'est là que mon père m'avait inscrit au concours d'école normale et je suis devenu instituteur.
Donc, c'est ton papa qui t'a dit, tu fais comme mon métier, quoi.
Voilà.
Bah, c'est vrai que nos pères, c'est souvent nos héros et puis on fait un peu comme eux, quoi.
Et puis il fallait un peu revenir sur terre, quoi.
Ben ouais. Et c'était comment cette période de ta vie ? Quand tu avais 22 ans, pas de def, les chemises à fleurs, un peu les années 68.
Ah, c'était des années extraordinaires. Des années extraordinaires.
Pourquoi ?
Parce qu'on avait vraiment ce sentiment de liberté. Donc au départ, on faisait tout en vélo. Après, on faisait tout en voiture. Sans argent, je ne sais même pas comment on faisait, sans téléphone, sans rien du tout.
C'était une autre vie, quoi.
Oui, c'était une autre vie.
On n'avait pas besoin d'avoir ce téléphone tout le temps en poche.
Et après, quand j'étais à l'école normale, on a donc eu un salaire. En tant qu'étudiant.
C'était
des années.
Et c'était,
des années
on peut demander
payées.
Combien ? C'était beaucoup ?
C'était 2000 francs.
2000 francs ?
Par mois, oui.
Ah, c'était déjà pas mal, non ?
C'était énorme.
C'était 3 SMIC, ça, non ? Facile.
Je sortais du service militaire où je touchais 200 francs par mois.
Ah ouais, ouais.
Donc, du jour au lendemain, je touchais 10 fois plus. Ouais. Grosso modo, on ne savait plus quoi faire avec l'argent.
Le banquier devait être content.
Parce qu'on était habitué à vivre avec rien.
Avec rien.
Et
là,
tu
as tout.
Ouais.
Bah, écoute, on va reposer un tout petit peu les oreilles. On va demander à notre ami Thomas de nous mettre la musique numéro 2, la symphonie que tu m'as demandé d'un montagnard que tu connais bien. Dis-moi, Monsieur Krenker, cette musique te fait penser à la nature ? T'as une larme à l'œil, là, presque ?
Ben, un petit peu, parce que ça nous ramène nouveau dans le Vivarais, puisque c'est la symphonie sur un chant cévenol de Vincent d'Indy qui a été composée dans un château juste à côté, là où j'étais berger.
Ah ouais, donc tu l'as...
Et c'est une musique qui...
Qui te parle.
Qui me parle énormément, bien sûr.
Et là, en fait, en parlant de cette belle musique, de cette nature que tu aimes beaucoup, tu as une révélation au pied du Climon. Raconte-moi un petit peu ce qui s'est passé dans cette maison que tu as achetée un jour, qui est une ancienne colonie de vacances.
Voilà, donc j'ai enseigné pendant 2 ans. Et j'avais toujours un projet un petit peu particulier. Et on s'est installé avec ma femme Agnès, que j'ai rencontrée à l'école normale, qui était une agence matrimoniale à l'époque.
Tu t'habillais déjà la camif et tout ça.
Exactement.
Et on se marie entre eux. Ouais.
Donc, on s'est retrouvés dans la Haute-Vallée de la Bruche en tant qu'enseignant. Et j'ai commencé donc ce projet de confiturerie, qui a pris très rapidement de l'expansion. Et à côté de la maison forestière qu'on avait acquise à l'époque, il y avait une colonie de vacances qui était plus ou moins abandonnée, disons. Et cette colonie de vacances a une histoire intéressante parce que nous l'avons rachetée au consistoire israélite qui était propriétaire de cette colonie de vacances, qui depuis après la guerre, en fait, servait à accueillir les enfants juifs des déportés ou des enfants orphelins, etc., pour un petit peu les requinquer.
Donc il y avait beaucoup de chambres, il y avait beaucoup...
Ah oui. Moi, j'ai encore fait une des dernières colonies de vacances là-dedans. Et ça fonctionne après pour 30 enfants.
C'était un équipement
pour une trentaine d'enfants.
Ouais, c'est une belle histoire. Voilà. Ouais.
Et donc, comme mon projet de confiture se développait, il me fallait des locaux un peu plus grands. Et puis, j'ai contacté le consistoire israélite pour voir si... peut-être qu'ils pourraient nous le vendre, enfin qu'on puisse en faire l'acquisition. Et c'est effectivement une opération qui s'est très très bien passée.
Parce que tu avais un beau projet à leur proposer également.
Oui, et puis ça tombait à un moment où justement ils cherchaient à se séparer de plusieurs bâtiments.
Le bâtiment était dans un bel état
? Ah, il y avait beaucoup de travaux, ouais. Surtout qu'il fallait le transformer de colonie de vacances en confiturerie, donc pas tout à fait le même format, quoi.
Donc de l'espace, t'en avais quand même.
De l'espace, absolument, parce que je suis passé d'une cave voûté de 8 mètres carrés sur un bâtiment qui avait plus de 200 mètres carrés.
Donc tu savais, un instituteur qui savait tout faire, tu savais bricoler, travailler de tes mains,
savais
tout faire.
Mais ça, quand on a fait un petit peu quelques stages dans le monde agricole, on n'y coupe pas, on est obligé de passer par cette case-là de bricolage, réparation, etc.
Et donc pas de regret de quitter les enfants de l'école maternelle, de l'éducation nationale pour te donner... parce que tu t'ennuyais à enseigner
ça... Non, en fait, le projet de la confiture était antérieur à l'éducation nationale.
Ah bon?
Oui, je peux le dire maintenant, mais bon...
Donc ton papa s'était trompé,
Oui, oui, là... J'ai fait ça, c'est un travail que j'aimais bien faire. Franchement, j'avais des bons contacts avec les enfants, avec les parents, etc. Tout se passait bien, mais j'avais toujours derrière la tête ce projet de confiture. Et le statut d'enseignant m'a aidé beaucoup dans le sens où mon projet était crédible. Parce que j'avais plus l'étiquette de farfelu qui va balader en Ardèche, hippie ou apprenti hippie, mais j'avais l'étiquette d'enseignant, donc quelqu'un de respectable.
De respectable et de réfléchi, quoi.
Voilà, le projet était respectable, donc les banques ont suivi, beaucoup d'institutions ont suivi.
Et donc tu as pris un congé sans solde de l'éducation nationale, donc tu n'es pas parti tout de suite, quoi. Tu n'as pas mis la tête sous le paillasson.
J'ai d'abord pris un congé parental pour m'occuper des enfants.
Ah oui.
Ma femme a continué à enseigner parce qu'il fallait bien qu'on mange.
Ah oui, donc c'était ta femme t'a aidé financièrement?
Absolument.
Et moralement?
Absolument,
aussi.
Et moralement aussi, elle a soutenu le projet. Et donc ça a duré pendant jusqu'à ce qu'on dégage un petit peu des petits revenus avec les confitures. On peut dire qu'on n'était pas loin d'une dizaine d'années, quoi.
Ah oui. Et alors c'était ton projet, tes porteurs, les confitures du Climont, c'est quelque chose qui a plu tout de suite au début?
Au départ, c'était surtout une boutade. C'était une boutade, pour détendre l'atmosphère quand ça coinçait quelque part, pour faire rire la collectivité, je disais, je m'en fous, un jour je ferai de la confiture. Et tout le monde, et moi je ne prenais absolument pas au sérieux, mais l'entourage le prenait au sérieux. Et il y en a qui m'ont dit, le jour où tu vivras de tes confitures, je te paye une caisse de champagne. Enfin, il y avait plein de trucs comme ça.
Ah ouais, des jaloux, des taquins, ils te taquinaient
un
peu.
Voilà. Puis, il y a un ami potier qui m'a jeté à l'eau. Et il m'avait inscrit à une fête artisanale à Solbach, je me souviens très bien, dans la Haute-Vallée de la Bruche, au-dessus de Foudet. Et il m'a dit, je t'ai inscrit à la fête. Je dis, pourquoi faire? Et il m'a dit, pour vendre des confitures, tu nous casses les pieds avec tes confitures.
Ah ouais, bah ouais.
Et en 15 jours, j'ai fait des confitures.
Les premières confitures, c'était quoi? Des framboises?
J'ai tout de suite fait des choses un peu originales.
Quoi, par exemple?
Je me rappelle que j'avais fait de la carotte au whisky.
Ah, carotte au whisky?
Tout de suite, premier, puis je ne sais plus.
Mais ça, c'est pour le petit déjeuner le matin? C'était pour le carotte avec du whisky?
Ouais. C'était surtout pour les médias.
Ah ouais?
Ouais, c'était marketing.
Pour qu'ils s'intéressent à toi?
Ouais. Ah ouais. Et effectivement, le lendemain, dans le journal local, j'avais un bel article sur l'artisan.
Ouais, parce qu'il faut aussi se faire connaître, il faut communiquer, voilà. Hein, ça voilà. C'est important ouais, ouais. Ça.
Donc l'ex-instit qui fait des confitures, au niveau média, ça passe bien.
Et je me souviens aussi de tes débuts, parce qu'à l'époque, dans les années 80, on est venu, France 3 Alsace est venu avec les caméras, tout ça, j'étais le caméraman. Tu avais un atelier un peu à l'ancienne avec un vieux chaudron en cuir qui était centenaire, je crois, je me souviens de ça. T'avais, et c'est là que t'as démarré, quoi.
Oui, tout à fait.
Et c'est là que j'ai remarqué que tu ressemblais à Gérard Jugnot.
Ouais. J'avais une image en tête d'une confiturerie artisanale alors que je n'en avais jamais vu. C'est quelque chose qui n'existait quasiment plus. Il n'y avait plus que l'industrie où on ne pouvait pas rentrer. Ou alors, c'était de la confiture ménagère, familiale. Mais entre, je m'étais fait une image, je ne sais pas d'où elle sortait vraiment, cette image, avec des vieux chaudrons, etc. Et j'ai eu de la chance d'avoir, dans le village à Renru, un Parisien qui avait une résidence secondaire et qui m'a dit, mais chez moi, à Paris, j'ai des vieux chaudrons en cuivre.
Ah ouais, ouais. Et donc, il te les a ramenés.
Et ouais. Enfin, on est allé les chercher. C'était ouais. Assez rock'n'roll parce qu'on n'avait pas de véhicule. Et on a ramené ces gros engins à la Salcée pour faire de la confiture. Et là aussi, au niveau, il y avait des belles images, du coup. Et l'entreprise a continué à croître.
Oui, c'est important d'avoir une image intéressante pour les médias, tout ça, quand voilà. Ils viennent, pour ouais. Regarder le clin d'œil, tout ça. Tu as aussi le sens de l'image, je le sais, ça. Tu as le sens de l'image.
Oui, bien sûr, pour la communication. Mais en plus, c'est du matériel qui correspond à quelque chose de très précis ouais. Et qui est intéressant, quoi.
Mais le métier de confiturier, c'est aussi un métier très scientifique. Il faut savoir doser, mettre du sucre, pas. Ou... Enfin, c'est presque un truc mathématique, non ?
Alors, empiriquement, la confiture était quelque chose de très empirique. C'est-à-dire, on ne la maîtrisait pas du tout scientifiquement, on ne savait pas ce qui se passait, on ne savait pas...
Mais du dosage,
on ne savait pas mesurer, il y avait des dosages, mais ils étaient empiriques. Il y avait, moi je mets plus de sucre, moi je mets moins de sucre, moi je fais plus. Et j'ai essayé maintenant de rendre ça un petit peu plus scientifique. Donc j'ai fait des recherches, j'ai fait des calculs, etc.
Ouais, c'est pas au feeling, c'est pas au feeling.
Là, chez nous, c'est plus au feeling, ah, ouais. C'est fini ça.
Au maintenant. Début, c'était comme ça.
Ouais, ouais. Ouais. Pendant ouais. Des siècles, pendant ouais. Quatre siècles, c'était au ouais. Feeling.
Et ce nom, la confiture du Climont, c'était une bonne idée de mettre ça, mettre le Climont dans le coup.
Ah oui, oui, parce que au départ, la confiture devait s'appeler confiture Fadiez.
Wow, bah c'est drôle.
Entre Fabrice et Agnès, et puis la musique, ça donnait Fadiez.
Ouais. Comme vous étiez musiciens tous les deux.
Voilà. Ouais. Et donc, je pense qu'on peut le citer, c'est l'entreprise Klein, charcuterie Klein de Strasbourg.
Ah bah oui, je connais bien.
Qui a une résidence secondaire à Renru, dans notre village. Oui. Et donc, le patron de cette entreprise, j'avais pris contact avec lui et il m'a dit « Fadiez, c'est pas bon, il faut appeler ça confiture du Climont. »
Bah, il a eu raison, ouais.
Il a eu raison, tout à fait. Bon, c'était quelqu'un déjà, une entreprise qui était déjà, je ne sais pas, combien de générations, qui avait déjà aussi l'expérience au niveau communication.
Ouais, c'est ça. Et puis, c'est vrai que bon, moi, je suis du quartier, là, je vais chercher souvent ma viande là-bas. Chez Klein, c'est quand même, ils ont des très très bons produits, quoi, tu vois, c'est quelque chose de bien, ouais. Et alors, ta confiture, tu as fait 40 sortes de confitures du Climont et 40 tonnes par an, quelle belle aventure!
Oui, c'est sûr qu'au début, on tournait à 8 kilos de confiture par jour. Wow. Et là, maintenant, on est entre 200 et 300 kilos par jour.
Mais tu avais combien de petites mains là pour faire tout ça, pour enlever les noyaux des Mirabelles
Il y avait les enfants.
Ah ouais, carrément.
Il y avait les enfants.
Mais c'est interdit de faire bosser les enfants.
Pour dénoyauter, pour coller les étiquettes. Wow. Ah oui, bien sûr. Ouais.
Donc c'était une entreprise familiale.
C'était très familial, tout à fait. Et c'est pour ça que par la suite, j'étais toujours à la quête d'équipements un peu plus modernes. Et c'était difficile à trouver parce qu'une fabrique artisanale se situe entre le ménager et l'industriel. Donc pour l'industriel, on trouve énormément de choses. Pour le ménager aussi, mais ce n'est pas adapté à notre échelle. Et donc il a fallu, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Il y avait tout juste le fax, il y avait le Minitel. On avait un petit peu des adresses par-ci, par-là. Ouais. Donc la recherche était très, très compliquée. Quoi, hein. Chercher une dénoyauteuse qui fait 100 kilos heure et
Ah ouais.
Ouais. Difficile à trouver. C'est... Une tonneur, on trouve facilement. Mais 100 kHz, on ne trouve pas.
Et après, tu me disais tout à l'heure avec la communication, tu as eu un article de presse dans un journal local. Bah, c'est une bombe pour toi. C'était une centrale nucléaire, non ? Ça faisait tout de suite te connaître partout.
Oui, tout à fait.
Et c'est comme ça que ça a démarré.
Oui, c'était
très... Télé, radio,
c'était
tout
très
ça,
surprenant. Article. Je suis arrivé au bon moment. Au bon moment où il y avait une clientèle qui attendait ce type de produit. Ça, je ne le savais pas. Je n'ai pas fait d'études de marché. Hein. Comme j'avais... non pas démissionner de l'enseignement, mais prier des congés sans solde, je me suis dit, si je me casse la figure, je réintègre. Ah ce n'est pas un problème.
Oui.
Et ça a duré 5 ans, donc j'ai pu prendre le risque.
Une soupape de sécurité,
Sans faire d'enquête et tout, enfin d'études marketing, etc. Et on est tombé au bon moment. On le sait maintenant avec du recul, on sait que c'était dans les années 80 que les gens se sont posés la question de la malbouffe et de la bonne bouffe. Quoi.
Ah ouais. Attends, tu parles des années 80, on va demander à notre ami Thomas de nous mettre une petite musiquette, Simon & Garfunkel. T'as aussi une très belle histoire là-dessus. Vas-y Thomas, mets-nous la belle musique.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp I turned my car.
Elle a une belle histoire cette musique. Ta femme joue de la guitare ?
Ben oui, Agnès joue de la guitare et puis c'est l'animatrice des feux de camp.
Des feux de camp
depuis toujours.
C'est comme ça que vous êtes connus, presque.
Oui, on est un petit peu dans cette mouvance-là.
Baba cool, quoi. Ouais. La musique, c'est vrai que c'est une belle musique. Ouais. Mm-hmm. Et alors, tu as un jour cette confiture, tu avais envie de faire autre chose. Ta confiture a eu un grand succès du Climont. Après, tu voulais retourner en Ardèche et là, tu as fait de la crufiture. Il y a vos échetindes, la crufiture, c'est quoi ?
À force de faire des calculs pour la fabrication de la confiture, j'étais donc arrivé à une constatation que pour la confiture, il faut évaporer de l'eau, mais on n'est pas obligé forcément de la chauffer. Et j'ai donc fait des tests pour évaporer la confiture avec le vent et le soleil, au lieu de la soumettre à de la chaleur.
Avec la nature, donc ? C'est la nature qui fait la confiture ?
Oui, c'est le mot juste. C'est une évaporation naturelle.
C'est incroyable. Ouais. Mais comment tu as eu cette idée ?
C'est peut-être, de nouveau, pareil, c'est d'être là...
Au bon moment.
Au bon moment, de sentir le vent tourner.
Ouais.
Et donc, moi, j'ai quand même commencé ces recherches sur la confiture en 2013. Donc, on était avant les grands problèmes d'économie d'énergie, quoi. Donc, j'avais effectivement, entre guillemets, un petit temps d'avance, quoi.
Et cette confiture, cette crufiture, pardon, tu peux la faire qu'en Ardèche ? Parce que là où il y a du soleil, il y a du vent.
On peut la faire en Alsace aussi. Hein.
Tu l'as fait aussi au Climont ?
Je l'ai fait au Climont, hein, mais en plaine d'Alsace, ce serait
le top. Mais explique-nous comment c'est. Tu as donc des clairettes comme ça, où tu mets les framboises dedans ?
Voilà, ce sont des plateaux en cuivre d'à peu près 1 mètre carré.
Que toi, tu as inventé également ?
Voilà. C'est du plat. Hein, on peut s'imaginer de la dessiccation quand on sèche des abricots ou des fruits comme ça dans les pays chauds.
C'est incroyable.
On met ça sur des plateaux. Moi, je mets le plateau, le mélange fruits et sucre, au lieu de le mettre dans une marmite, je mets sur un plateau.
Et donc, c'est le soleil qui fait la
confiture. Soleil et le vent.
Ouais. Mais dis donc, t'es le professeur tournesol, toi.
Voilà, et si on veut. Et tout ça est contrôlé par pesage. Parce que grâce au calcul, je sais combien d'eau il faut évaporer pour arriver à un produit fini qui soit stable, c'est-à-dire sur lequel les micro-organismes ne vont pas se développer.
Et alors, la crufiture ou la vraie confiture du Climont, c'est qu'est-ce que tu préfères quoi le matin sur les tartines ?
Alors, c'est pas tout à fait comparable des deux produits, mais ils se complètent. Ils se complètent selon l'usage, selon la... selon l'usage et puis l'envie. Il n'y a pas vraiment de différence. C'est vrai qu'avec la crufiture, il y a cette satisfaction de dire « ils ont fermé Fessenheim, moi ça ne me dérange pas du tout ».
Ah ouais, c'est drôle ce que tu dis.
Ben,
ah ouais, c'est sympa.
Ah ouais, mais c'est pas un souci.
Mais en fait, en parlant du goût de cette crufiture, c'est plus pour faire de la cuisine, pour les chefs étoilés qui prennent ça pour mélanger ça avec leur mets. C'est un peu
le débouché, il est quand même là en accompagnement, beaucoup en accompagnement pour la crufiture.
Par exemple, ouais. Avec du foie gras, c'est plus facile de, voilà, de prendre de la crufiture.
Tout à fait, oui, ou dans des amuse-bouches ou des choses ouais. comme ça. Ouais.
Mais comme ce n'est pas chauffé, ce n'est pas pasteurisé, il n'y a pas de moisissure là-dessus là,
Ben non, justement, c'est ça, c'est ça qui est surprenant.
C'est vivant, alors?
Alors, je peux l'expliquer, mais ça prend 3 jours.
On n'a pas le temps. Thomas est déjà en train de me dire, il reste 2 minutes, donc, dans sa cabine, donc... Ouais. Mais écoute, alors, en fait, parle-moi juste un petit peu de cette exposition que tu as mis en place à Truchtersheim, là, en ce moment. Oui, t'as une belle expo, là, en ce
oui,
moment.
Oui, alors ça, c'est aussi... on n'y aurait jamais pensé qu'un jour, il y aurait une exposition consacrée à la confiture. Ça ne s'est jamais fait.
Et là, c'est en ce moment...
Et donc, cette association...
On est en pleine actualité, là.
Voilà, à la maison du Korosberg, hein, qui ouais. aura un très joli local ouais. Pour la muséographie. Et donc, ils m'ont contacté, puisque j'ai une grande collection d'objets qui sont liés à la confiture.
Que tu as gardé depuis des années.
Oui, puis que j'ai acheté aussi en cours de route. Et ils m'ont demandé s'ils pouvaient si je pouvais les fournir en objets, puis les conseiller un petit peu. Et donc, cette exposition est en route depuis samedi dernier, et ça durera jusqu'au 14 janvier. Donc, c'est une exposition permanente.
Une année,
c'est quasiment une année. Voilà.
Wow,
plus de 6 mois d'exposition ouais. sur la confiture. Et dans le cadre de cette exposition, je vais aussi faire une conférence sur la confiture, mais qui là sera effectivement plus scientifique, plus mathématique, plus axé sur ça,
Et toujours à Truchtersheim.
Sur l'équation, sur la formulation.
Ah oui. Et parle-moi un petit peu, donc tu es un petit peu en retrait aussi des confitures du Climont, tu t'occupes de la crufiture, et maintenant c'est ta fille Perrine qui a repris... ton entreprise ?
Oui, alors Perrine a repris, contre toute attente, a repris l'entreprise en 2016.
Elle était obligée comme toi aussi ? Quand ton père a dit tu deviens
astique ? Non, je ne pense pas. Non,
elle avait envie.
Ils avaient vraiment libre. Je n'ai fait aucune pression sur les enfants pour reprendre l'entreprise. Surtout qu'on avait d'autres repreneurs, de toute façon. Et donc, elle a repris l'entreprise. Et puis, elle a vraiment la niaque. Elle développe ça de façon assez surprenante.
Oui, je l'ai eu au téléphone avant qu'on fasse cette émission. Elle est assez fière de reprendre. Prendre l'entreprise de son papa. Et alors, dis-moi juste, tes confitures du Climont, on peut les acheter où ? Tu as beaucoup de revendeurs un peu partout ?
Oui, alors on a évidemment des boulangeries, des pâtisseries, des épiceries fines, des magasins de produits régionaux.
Dans toute l'Alsace ?
Plus que l'Alsace, oui.
Ah, t'es au-delà des frontières alsaciennes ?
Oui. On a une clientèle à Paris, on a aussi l'un ou l'autre magasin spécialisé en produits d'Alsace.
Ah,
c'est surtout
ouais.
ça, en général, le dénominateur commun
D'accord.
de toutes ces boutiques-là.
Et en Ardèche et aussi, j'imagine ?
En Ardèche, non, on n'a pas de revendeurs là-bas, parce qu'il y a tellement de confituriers, il y a tellement de productions alternatives que... Ils n'ont pas besoin de nous là-bas.
En tout cas, tu as toujours ta petite 2 pattes fourgonnette là-bas en Ardèche.
Ah, absolument.
Elle est magnifique.
Absolument,
on avait fait un beau reportage avec ta fourgonnette.
Ouais. Mais elle est entièrement restaurée. Elle a le contrôle technique.
Elle a le contrôle. Bah, c'est extraordinaire.
Elle ne tombe plus en panne.
Ah oui, elle était tombée en panne à l'époque.
Ah,
bah,
ouais. Beaucoup, ouais.
Bah, écoute, Fabrice Krenker, je t'ai content de t'avoir au micro de Radio Judaïka. Ça m'a fait plaisir de partager cet instant, cette demi-heure avec toi. Et merci d'être venu de si loin, de Saint-Dié jusqu'à chez nous. Ça m'a fait plaisir. Et bonne chance à la confiture du Climent et à cette expo à Truchtersheim. Merci Phil Moltz, on morse gut. À bientôt.
Merci Phil Moltz, merci de m'avoir reçu.
À très vite, à très bientôt, à la semaine prochaine. Salut la radio.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite.